France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission de géographie et des enjeux globaux de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Et rappelez-vous, le week-end dernier, la Terre a tremblé au Japon.
Ce deuxième séisme a développé une énergie encore plus formidable que le précédent. Ces vibrations ont été aussi fortes que celles qui ont frappé le nord-est du Japon et la centrale de Fukushima il y a 5 ans, parce que l'épicentre est situé à une très faible profondeur, juste sous la ville de Kumamoto, à 1 000 000 de kilomètres au sud de Tokyo.
C'était donc samedi dernier, et pour Frédéric Charles, le correspondant de Radio France au Japon, ce tremblement de terre, bien que situé tout à fait au sud de l'archipel, est en écho, bien entendu, à la catastrophe de Fukushima. Catastrophe de Fukushima, il y a 5 ans, c'était le 11 mars 2011. Il y a 30 ans, le 26 avril 1986, c'était la centrale nucléaire de Tchernobyl qui explosait. On prête à Václav Havel d'avoir dit, je cite, « La science peut mener à la découverte de l'énergie atomique, mais elle ne peut pas nous préserver d'une catastrophe nucléaire. » Alors dans le cadre de cette semaine thématique de France Culture, que nous avons intitulée Science et catastrophes, Planétaires vous propose d'évoquer comment la science des territoires, la géographie, permet de comprendre la vie après la catastrophe et ce qu'elle propose éventuellement pour faire face aux risques de catastrophe. Alors, que sont devenus les habitants des territoires de la catastrophe, des catastrophes? Le nombre et le type de territoire exposé aux risques est-il croissant ou en réduction dans le monde? Et enfin, quelle évaluation faire des choix politiques opérés dans les territoires soumis à une catastrophe et dans ceux soumis à des risques? Vivre après la catastrophe, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Élément de réponse avec 3 chercheurs, géographes, qui réfléchissent aux catastrophes. Annabelle Moati, Samuel Ruffat, Rémi Scosimaro. Bonjour à tous 3.
Bonjour.
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 Bonjour Rémi Scosimaro, vous êtes en duplex de France Bleu Toulouse. Merci aux collègues qui vous accueillent. Annabelle Moati, vous êtes chercheuse au sein du laboratoire GRED pour gouvernance, risque, environnement et développement, qui est une unité mixte de l'université de Montpellier 3 et de l'Institut de recherche pour le développement, n'est-ce pas ?
Absolument.
Et votre thèse, récemment soutenue, je crois, s'intitule « Pour une géographie des reconstructions post-catastrophes ». Risques, société et territoire. Samuel Ruffat, la dernière fois que vous êtes venu sur Planète Terre, vous nous aviez entretenu des jeux vidéo et vous êtes toujours maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Mais depuis quelques années, c'est aux catastrophes que vous consacrez vos recherches et vous avez notamment dirigé, co-dirigé, devrais-je dire, avec Magali Reghezza, qui était elle-même dans cette émission il y a quelques semaines pour nous parler de la crue de la Seine. Vous avez dirigé avec elle, disais-je, Résilience, société et territoire face à l'incertitude, aux risques et aux catastrophes. C'est paru en 2015 aux éditions IST. Enfin donc, Rémi Scosimaro, vous êtes maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès. On ne dit plus le Mirail maintenant, Rémi Scosimaro.
Non, presque plus.
Oui, c'est pas du tout connoté de la même façon, le Mirail et Jean Jaurès. Mais bon, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler des toponymes des universités partout dans le monde, mais c'est pas le sujet du jour. Je disais donc, Rémi Scosimaro, que vous êtes spécialiste du Japon et que depuis 2011, vous arpentez cette région du Tohoku, qui a été particulièrement éprouvé par le tsunami, puis la catastrophe nucléaire de Fukushima. Alors, bon, puisque nous sommes à quelques jours du 30e anniversaire de la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl, je me tourne peut-être d'abord vers vous, Samuel Ruffat, pour vous demander, 30 ans après, qu'est devenu le territoire de la catastrophe de Tchernobyl? Est-ce que ce territoire de la catastrophe de Tchernobyl, on en a aujourd'hui la même définition, on en dessine le même périmètre qu'au moment même de la catastrophe?
Alors, le territoire de Tchernobyl, il est une centaine de kilomètres au nord de Kiev, à proximité de la frontière entre ce qui est maintenant l'Ukraine et la Biélorussie. Après la fusion du centre du réacteur le 26 avril 86, 200 000 personnes ont été évacuées d'un territoire de 30 km de diamètre autour de la centrale nucléaire. Aujourd'hui, c'est à peu près le même territoire de 30 km de diamètre qui est défini comme une zone d'exclusion dans laquelle il n'est pas possible de rentrer. Notamment parce que malgré le travail des 600 000 liquidateurs soviétiques qui avaient été envoyés pour colmater les fuites et récupérer les matériaux radioactifs, il y a de nouvelles fuites et de nouveaux projets de construction d'un nouveau sarcophage, une grande arche par-dessus la centrale de Tchernobyl. Mais ce projet est sans cesse repoussé maintenant. Il devait être livré pour 2015. Maintenant, il est question de le livrer pour 2017. Donc une zone d'exclusion de 300 000 hectares avec la création de villes ex nihilo à l'extérieur, je pense par exemple à la ville de Slavovitch, de 30 000 habitants, qui a été créée ex nihilo pour accueillir les réfugiés de Tchernobyl, et une zone dans laquelle il est question d'une biodiversité plus importante que dans d'autres territoires européens du fait de l'interdiction de pénétrer dans la zone et de sa surveillance militaire.
C'est contre-intuitif là ce que vous nous dites. La biodiversité est plus élevée que dans un territoire européen moyen.
Alors, il y a des débats parce qu'il n'est pas possible de rentrer dans la zone et donc ce sont des appareils photo automatiques qui, avec des détecteurs de mouvement, prennent en photo différents animaux. Les collègues en écologie estiment qu'il leur faut une centaine d'années pour essayer d'estimer les effets concrets sur la faune et la flore. Donc, c'est vrai que c'est un peu peut-être précoce pour en parler. Mais il y a pas mal de tour opérateurs qui se sont saisis, en fait, de cette idée d'une biodiversité importante dans la zone d'exclusion pour proposer des circuits touristiques à la fois en surfant sur l'idée de la zombie apocalypse et de l'apocalypse nucléaire et sur l'idée de biodiversité pour proposer aux touristes de faire le tour de cette zone d'exclusion.
Alors, ça veut dire que cette zone d'exclusion est impropre à l'habitation, mais elle n'est pas impropre au tourisme. Enfin, si j'ose employer le mot de tourisme, je mets des guillemets, bien entendu.
Non, il ne s'agit pas de vendre aux touristes le fait qu'ils vont rentrer dans une zone interdite, mais de leur proposer un safari photo, de faire le tour de la zone, d'aller observer les animaux et les ruines que l'on peut observer de loin au milieu de ce qui est sans doute l'une des plus grandes friches du continent.
Annabelle Moati, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vient de nous dire Samuel Ruffa, vous qui n'êtes pas particulièrement spécialiste de Tchernobyl, mais qui, d'une certaine manière, est spécialiste de la question de la reconstruction dans les territoires post-catastrophe. Est-ce que, pour vous, ça rentre en écho avec, on va dire, des évolutions plus générales ou plus globales ?
Absolument. Ça rentre en écho sur deux points, à la fois sur le point de la zone d'exclusion, donc des zones qui sont interdites où on ne peut pas se réinstaller après les catastrophes, sur la création de villages ex nihilo qui est donc nécessaire une fois qu'on a interdit aux populations de revenir. Il est nécessaire de leur fournir des zones d'abri à la fois temporaires et puis permanents. Sur le volcan sur lequel j'ai travaillé en Indonésie, sur le mont Merapi, on a retrouvé le même type de...
Nord-est de l'île de Java, si je ne m'abuse.
Absolument. Absolument. On a retrouvé le même type de structuration de l'espace que sur cette problématique-là. Donc on a sorti les populations de la zone à risque.
700 000 personnes ?
À peu près, oui, tout à fait. Des villages entiers qui ont été... absolument, il y a des densités de population à certains endroits, plus de 1000 habitants par kilomètre carré, donc c'est très densément peuplé. Donc on a sorti les populations de ces zones qui étaient trop à risque, jugées comme étant trop à risque, donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas protéger la sécurité des... On ne pouvait pas assurer la sécurité des populations. Et on a créé des villages ex nihilo pour accueillir tous ces réfugiés. Ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes d'occupation de l'espace. Ces villages sont nécessairement localisés à proximité d'infrastructures, de transport, de santé, de sécurité, d'hygiène et d'éducation notamment, donc la localisation de ces villages ne peut pas être faite absolument n'importe où, et ce qui pose aussi des problèmes après au niveau des populations, des populations qui ont été déplacées, de reconversion, des questions de quel métier faisiez-vous avant dans ce village-là, pouvez-vous l'exercer dans ce nouveau village ? Dans de nombreux cas, la réponse est non. De fait, il y a une reconversion nécessaire des populations. En Indonésie, les populations étaient majoritairement dans un milieu rural, donc vivaient de l'agriculture, et ont dû se reconvertir, notamment par le biais de production de biens manufacturés afin de continuer à vivre. Le deuxième point est lié au tourisme dont vous parliez sur le site de Tchernobyl. Sur le site du Merapi, on a un tourisme qui se développe aussi au sein des carrières d'extraction, c'est-à-dire que le long du volcan, vous avez des rivières qui descendent vers le sud. Et ces rivières sont chargées de matériaux déposés par les éruptions volcaniques. Et il y a des extracteurs, des personnes qui viennent travailler, récolter ce sable pour en faire du ciment, des briques, etc. Et il est proposé aux touristes de faire un tour en jeep à l'intérieur de ces corridors de l'art, à l'intérieur de ces rivières, pour donner aussi ce petit côté un peu excitant du touriste dans sa jeep qui va prendre quelques photos de ces zones qui sont donc sinistrées.
Rémy Scocimaro, donc vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Toulouse. Vous
oui.
m'entendez?
Oui.
J'aimerais vous poser la question suivante. Je suis frappé par le fait que, dans un cas, Tchernobyl, Samuel Ruffin nous en parlait à l'instant, il s'agit d'une catastrophe, on va dire, nucléaire. Et peut-être que derrière catastrophe nucléaire, comme on le sait, il y a un certain nombre d'auteurs, comme Gunther Anders ou Frédéric Lemarchand, qui pensent qu'on est face à un type de catastrophe qui nous font rentrer dans une nouvelle ère de l'humanité, pas forcément très gai. Le volcan Merapi, on est plutôt sur ce qu'on appelle classiquement, peut-être que les uns et les autres, vous allez me corriger, une catastrophe naturelle. Au Japon, Rémy Scocimaro, il y a maintenant, si j'ose dire, les deux, c'est-à-dire les séismes, les explosions volcaniques, on peut dire, et les tsunamis, bien sûr, on peut dire que les Japonais sont traditionnellement habitués à vivre avec le risque qu'on va appeler « naturel », entre guillemets. Depuis 2011, ils ont été confrontés à une catastrophe nucléaire. En 1945, ils avaient été confrontés au largage des bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima. Qu'est-ce que ça vous évoque, pour vous, qui êtes un spécialiste du Japon, est-ce qu'on peut mettre comme ça sur le même plan? Est-ce qu'on peut se permettre, comme on le fait là en ce moment dans une émission, de comparer une catastrophe nucléaire et une catastrophe dite naturelle?
Alors sur les mécaniques hein, du développement de la catastrophe, certainement pas. Bon, d'une part, c'est vrai que le Japon est de toute façon soumis de façon permanente à des risques, à des aléas naturels, et donc même ce qui s'est passé la semaine dernière est quelque chose qui est assez courant, ce qui explique d'ailleurs le faible nombre de morts par rapport à ce qui se passe en Équateur. Il y a quelque chose par rapport au nucléaire, et si on parle de catastrophe, en revanche, il y a quelque chose auquel les Japonais sont habitués, c'est la catastrophe industrielle. Et Fukushima, enfin la catastrophe de Fukushima entre sur un très grand nombre de points à la suite de catastrophes industrielles. Alors on pense par exemple à Minamata, hein, la contamination des eaux marines par une usine des composants chimiques et essentiellement du mercure, et qui a duré pendant une quarantaine d'années avec des problèmes de dissimulation, des problèmes d'identification précise des personnes victimes ou non de la catastrophe. Donc il y a un certain nombre de problématiques en fait qui sont déjà connues au Japon et qu'on va retrouver de façon presque naturelle lorsqu'on est confronté à une catastrophe industrielle qui concerne un grand groupe, en l'occurrence dans ce cas-là TEPCO, et il y a assez peu de surprises dans la façon dont les choses se déroulent. En revanche, l'intérêt scientifique en quelque sorte de la catastrophe du 11 mars, c'est qu'on a à la fois une catastrophe avec des aléas naturels et quelque chose qui va produire des événements qui sont, enfin des conséquences qui sont relativement connues, hein, avec le séisme et le tsunami. Mais dans le même temps, on a également une catastrophe nucléaire, et donc on peut commencer, et là, au bout de 5 ans, on peut commencer à voir un petit peu ce qui différencie les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie un territoire soumis à l'aléa naturel et qu'est-ce qui va différencier aujourd'hui un territoire soumis à la catastrophe nucléaire? L'élément essentiel, c'est le temps. Parce que on n'est que 5 ans après la catastrophe. On voit avec Tchernobyl que 30 ans après, on est toujours dans un état qui est de semi-catastrophe avec des zones interdites. Et là, dans les zones qui sont concernées par la radioactivité, avec alors, des niveaux qui sont quand même plus faibles hein, qu'à Tchernobyl, et au niveau de la tâche même hein, générale de la contamination, elle est plus faible qu'à Tchernobyl. Mais on va être dans des questions qui se posent de la même façon. Et en tout cas, on peut comparer, hein, du coup, hein, comment les territoires se reconstruisent après le tsunami et comment ils ne se reconstruisent pas pour l'instant après la catastrophe nucléaire ou avec la catastrophe nucléaire.
Est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'il y a des catastrophes, dont ferait partie les catastrophes nucléaires, qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas de terme? On peut dire ça, Samuel Ruffin?
Alors, juste avant, je voudrais revenir sur cette idée de catastrophe dite naturelle, parce que c'est un débat qui dure depuis 2 siècles et demi. C'est un débat dont on a trace au moins depuis le séisme de novembre 1755 à Lisbonne et le tsunami qui a suivi. Un débat qui a eu lieu entre Voltaire et Rousseau, Voltaire expliquant qu'il fallait arrêter de solliciter des interprétations divines et transcendantales de la catastrophe et la poser en tant que phénomène naturel, et Rousseau lui répondant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel mais d'un phénomène social, puisque la différence entre des secousses sismiques dans le désert ou un tsunami à un endroit où il n'y a pas d'habitation et des secousses sismiques à Lisbonne ou un tsunami à Lisbonne fait la catastrophe. Donc je pense que essayer de qualifier la catastrophe de naturelle, industrielle, etc. N'a sans doute plus aucun sens, voire nous empêche de considérer le fait que la catastrophe n'est pas forcément déclenchée par des événements extérieurs, elle est liée à des désorganisations internes, à des dysfonctionnements internes et au fait que les sociétés sont dépassées par les événements. Dans le cas du nucléaire, il est effectivement envisageable de penser le fait qu'elle n'a pas de terme. Pourtant, si on regarde, bien que ce soit extrêmement différent, Hiroshima au Japon, qui non seulement a été frappé par une bombe atomique en août 1945, mais qui ensuite a été frappé par un important typhon quelques semaines après, en septembre 1945, le gouvernement a décidé de reconstruire extrêmement vite Hiroshima avec des fonds de l'armée américaine. Et il y a eu un terme qui a été mis très rapidement à cette catastrophe, qui a permis au maire d'Hiroshima de décréter dès 1949, donc 4 ans après le bombardement, que la ville était l'un des symboles de la paix et du désarmement dans le monde. Donc, si c'est possible, alors bien sûr les niveaux de contamination de radioactivité ne sont pas les mêmes, mais si c'est possible pour un gouvernement ou pour un maire de décréter la fin d'une catastrophe nucléaire à un moment, ça doit l'être aussi à d'autres endroits. Et on peut imaginer qu'à un moment les autorités au Japon vont décréter la fin de la catastrophe autour de la centrale de Fukushima Daiichi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Annabelle Moitié?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, moi, sur les catastrophes que j'ai étudiées, sur les reconstructions post-catastrophes que j'ai étudiées, on note au tout début de la reconstruction ce qu'on peut appeler une compression temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une grande quantité d'actions à mener dans un temps restreint avec une grande quantité d'acteurs qu'il faut coordonner pour venir en aide aux populations, les reloger, maintenir la sécurité, etc. Et plus on s'éloigne dans le temps, plus on va assister au contraire à une dilution temporelle, c'est-à-dire que les actions de reconstruction vont se noyer, entre guillemets, vont se confondre dans les actions de développement et d'aménagement du territoire dans le sens plus large du terme, en fait. Donc, la catastrophe peut avoir un terme. Je pense que la reconstruction, en revanche, n'a pas réellement de terme. Elle finit par se fondre dans les périodes de développement et de prévention des territoires sur des temporalités beaucoup plus longues, sur des générations.
Rémy Scocimaro, qu'en est-il? Alors,
sur Hiroshima, là on n'est pas dans une catastrophe, hein. Là, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'Hiroshima c'est un bombardement, et on n'est pas non plus dans la même nature également de rayonnement, parce que le rayonnement d'Hiroshima s'est terminé assez rapidement, et c'est même l'objectif parce qu'il est très violent, alors que là, sur les réacteurs de Fukushima numéro 1, on est quand même sur des choses assez différentes. En revanche, sur l'aspect naturel, le tsunami au Japon, c'est quelque chose qui est naturel dans le sens que c'est commun, c'est-à-dire que les populations savent comment on réagit, savent comment on peut reconstruire et savent qu'il y a un avenir à relativement court terme, puisque déjà aujourd'hui, enfin 2 ans après la catastrophe, on avait des parcs ostréicoles qui étaient de nouveau en activité. Je dirais que la catastrophe nucléaire, dans le cas de Fukushima, elle est plutôt surnaturelle, c'est-à-dire qu'on est confronté à des éléments qui ne sont pas visibles, qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas de goût, et donc il est extrêmement difficile, en quelque sorte, au niveau du visible, la catastrophe est terminée, puisque on ne voit plus rien. Hormis le chantier de la centrale, finalement, on peut se promener à Fukushima. Dans certaines zones qui sont contaminées, on ne va pas mourir tout de suite. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est d'un aspect de contamination sur le long terme, une contamination invisible dont on ne possède pas la capacité sensorielle. Et de même que sur la visibilité même de la catastrophe, et c'est aussi une différence avec le tsunami et même avec Hiroshima pour le coup, c'est qu'on ne sait pas représenter la catastrophe de Fukushima. Et très souvent, à 80%, que lorsqu'on va voir des représentations de la catastrophe du 11 mars, on aura des photos du tsunami sous-titrées Fukushima. Et c'est aussi, à mon avis, une des caractéristiques, une des différences entre cette catastrophe nucléaire, qui est difficilement représentable, et la catastrophe naturelle dans le sens de commune.
Alors, Samuel Ruffin, peut-être pour éclaircir mon point de vue, je pense que parler de quelque chose de naturel dans le cas de Fukushima nous empêche de voir ce qui s'est effectivement passé, et notamment ce discours qui est tenu par une partie des acteurs au Japon conduit à diluer les responsabilités. À savoir, il y a des erreurs de calcul qui ont été faites, notamment sur les murs anti-tsunami, sur le fait qu'une partie de la falaise a été dynamitée pour construire la centrale plus proche du niveau de la mer pour éviter le surcoût de pomper l'eau en hauteur, des erreurs de calcul qui considéraient que même si on dynamitait la falaise pour construire la centrale le plus proche possible de l'eau, un accident n'était pas possible. Il me semble qu'il faut attribuer cette catastrophe à ces erreurs de calcul et non pas aux événements qui ont pu se produire, savoir secousse sismique et tsunami. Et c'est en ça que, même si j'entends qu'une guerre et une erreur de calcul et un accident industriel débouchant sur une catastrophe ne sont pas la même chose, je ne pense pas que ce soit absolument hérétique de rapprocher la façon dont Hiroshima a été reconstruite de la façon dont Fukushima pourrait trouver une fin à la crise.
Ce que je vous propose, pour peut-être essayer de visualiser un petit peu à la fois le territoire de Fukushima, en l'occurrence, et puis la manière dont peut se poser les responsabilités, c'est d'écouter un extrait d'un reportage qui avait été effectué par Daniel Mermet très peu de temps après la catastrophe, puisque c'était le 8 avril 2011 qu'il avait rencontré pour France Inter, dans son émission Là-bas si j'y suis, le journaliste Ryushi Hirokawa.
私がその現地に行ったのは福島に行ったのは13日ですけれどもその時はもう人々がそこから避難させられてただけどそこには検問所もなかったし私が入って行ったら中で測ったら恐ろしい放射能の値が計測されました
Je suis allé le 13, 12 jours après le tremblement de terre. Eh bien, les gens, les villageois autour étaient déjà évacués. Il n'y avait pas de contrôle de police. Tout le monde pouvait entrer. Et les gens autour ne sont pas été au courant du taux de radioactivité. J'ai amené avec mes collègues 3 machines pour détecter la radioactivité et 3 ont été cassées tellement l'aiguille a tapé. Je suis allé au village Futaba qui est à 3 km de centrale nucléaire et même à Tchernobyl, cette machine n'a jamais été cassée. Mais là, à Futabamachi, trois machines ont été vraiment pétées.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai presque envie de dire, cette culture du secret ou de la dissimulation, voire du mensonge, où on enjolive les choses, on essaye de tenir un discours de la part des autorités comme quoi les choses sont moins graves que ce qu'elles sont manifestement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît caractéristique, Annabelle Moati, de tous les territoires confrontés à un moment post-catastrophiste ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. C'est d'une part les politiques qui sont mises en place et d'autre part les discours qui sont faits pour valoriser et pour communiquer sur ces politiques-là, qui peuvent être parfois maladroits. La communication de crise, on le sait, est un exercice très délicat et très complexe. Donc je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire à ce niveau-là. Et je pense aussi que c'est lié à cette problématique du début de la reconstruction post-catastrophe. Et pour le coup, c'est une problématique qu'on retrouve pour les risques, entre guillemets, dits naturels, avec des aléas naturels qui participent à la catastrophe et aux catastrophes nucléaires ou technologiques. C'est la recherche d'un responsable, la recherche d'une responsabilité. Ça, c'est un élément qu'on retrouve absolument dans toutes les périodes de reconstruction post-catastrophe. À qui la faute? Pourquoi c'est dommage? Pourquoi à cet endroit? Cette recherche de responsabilité crée une un contexte, un climat de tension sociale et de conflits, de réactivation des conflits préexistants. Et donc une situation qui est très complexe à gérer pour les personnes qui ont la parole publique et qui doivent prendre la parole en public. Parce que chaque élément porte le flanc à la critique et est ouvert à la critique. Donc c'est un exercice qui est très délicat. En effet, on le retrouve dans beaucoup de cas. Ça s'est vu notamment après Katrina, où la communication sur le début de la reconstruction et sur les premières opérations de reconstruction a été complètement désastreuse.
À la Nouvelle-Orléans.
À la Nouvelle-Orléans, absolument. Ce qui a fait perdre le peu, on va dire, de confiance et de légitimité qui restait aux autorités locales auprès des populations et des sinistrés, en tout cas. Donc oui, c'est un élément qu'on peut retrouver fréquemment. Et ce, dans le but, je vous dis, d'apaiser ces tensions sociales et cette recherche de responsabilité. Alors, vu de là où on est aujourd'hui a posteriori, c'est pas la bonne solution, c'est certain, ça ne fait que l'aggraver. Ceci étant, je pense qu'à chaud, la communication est très, vraiment très complexe à mettre en œuvre.
Et Romis Cosimaro, que sont devenus, 5 ans après, qu'est devenu le territoire de Fukushima et que sont devenus les gens qui y habitaient, qui y travaillaient? Est-ce qu'il y a le même type de phénomène d'exclusion et de relogement bien plus loin que celui que Samuel Ruffa décrivait au début de l'émission s'agissant de Tchernobyl, du territoire de Tchernobyl?
Alors, le territoire de Fukushima est devenu un grand chantier. C'est le grand chantier de la décontamination. Et donc, les zones qui sont concernées par des niveaux moyens de radioactivité sont raclées, on entrepose la terre, etc. Donc c'est une zone qui est relativement active, mais avec uniquement des travailleurs, hein, que sont les travailleurs du nucléaire, qui travaillent donc à essayer de décontaminer les terres, en tout cas les vallées, hein, plus que les forêts.
C'est pas un peu le tonneau des Danaïdes? J'ai pu comprendre que la question se posait, parce que de toute façon, avec le ruissellement et les pluies qui reviennent forcément à intervalles réguliers, ce qui aurait été décontaminé un jour se retrouverait recontaminé quelques jours plus tard.
Tout à fait, c'est un chantier permanent, et donc là on en a pour un certain temps, et qui monopolise une partie de l'aide à la reconstruction d'ailleurs, hein, avec en plus des personnes qui travaillent sur place, qui ne sont pas forcément les déplacés du nucléaire, qui eux se retrouvent sans emploi. Donc c'est un des grands problèmes de la décontamination du territoire. Concernant les populations, et là c'est la différence avec Tchernobyl, c'est que on n'a pas construit de ville pour les reloger. Et on les a logés dans les seuls terrains qui étaient disponibles dans d'autres communes du département, c'est-à-dire dans des communes qui n'étaient pas forcément aptes à accueillir ces personnes, pas tellement pour des questions de radioactivité, mais plutôt parce que les personnes qui sont évacuées ont profité pendant une quarantaine d'années des subsides des groupes nucléaire, en l'occurrence TEPCO. Donc ils ont une vie relativement aisée, et aujourd'hui ils doivent se retrouver à être logés sur les terrains publics de communes qui, elles, ne recevaient pas cet argent, dans une région qui n'est pas la plus riche du Japon. Et non seulement ça a conduit à un éparpillement sur l'ensemble du territoire de Fukushima de ces petits hameaux de préfabriqués, alors que ce sont petits hameaux, hein, c'est de 50 à 100 foyers.
Et en tout, c'est à une population, vous diriez, d'à peu près combien de personnes? Il me semble me souvenir que le nombre d'évacués au moment de la catastrophe, il y a 5 ans, tournait autour de 500 000. Hein, mais...
Voilà. Aujourd'hui, on est plutôt à 174 000 pour l'ensemble de la catastrophe. Et à Fukushima, dans le département de Fukushima, on est sur 80 000 personnes, 70 à 80 000 personnes qui vivent encore dans ces préfabriqués. Mais alors là, pas du tout à proximité des axes de communication, dans des zones très isolées. Et c'est au sein de ces hameaux qu'on va avoir, qu'on voit se développer ce qu'on appelle la mortalité indirecte de la catastrophe, c'est-à-dire une mortalité due au stress, aux mauvaises conditions de vie, et qui aujourd'hui, pour le département de Fukushima, dépasse le nombre de morts directement liées à la catastrophe.
Et oui, qui était de 20 000, hein, je crois.
Le nombre de morts, 18 500 à peu près. Bon. Ouais.
Et ce que vous venez de nous raconter... Comment est-ce que c'est vécu au Japon? Est-ce que la société japonaise dans son ensemble s'en soucie? Ou bien au contraire, est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'on assiste à un phénomène de relégation, d'exclusion, la création d'une forme de ghetto au pluriel, avec ces petits hameaux de gens qui ont été touchés par la catastrophe et dont on ne voudrait plus entendre parler?
Alors, la société japonaise, dans son ensemble, elle est hétérogène, hein, elle n'est pas monobloc, et puis elle n'est pas assimilée aux autorités nationales ou locales. Alors, d'un point de vue général, hein, les Japonaises ont plutôt de la compassion, hein, vis-à-vis de ces personnes, surtout qu'on voit régulièrement, hein, des témoignages de des mauvaises conditions de vie dans ces zones-là. Localement, les choses sont un peu plus compliquées parce que, par exemple, c'est très compliqué pour le département de Fukushima de convaincre des communes du même département, hein, de céder des terrains publics pour implanter ces villages, et encore aujourd'hui pour trouver d'autres terrains pour implanter des structures plus durables. Même si on a de la compassion, les processus, la capacité de réunir des terrains et de mettre en place des hameaux qui seraient plus sur le long terme pour loger ces populations s'avère assez compliqué, avec des phénomènes même de tension entre ces populations des hameaux qui eux reçoivent de l'argent, hein. C'est des gens qui ont des compensations qui sont de l'ordre de 100 000 yens par personne et par mois, donc environ 700 euros. Donc ils ont de l'argent. Ils ne travaillent pas parce que la plupart étaient agriculteurs ou travaillaient dans les petites entreprises à côté de la centrale. En revanche, ils sont établis sur des communes où on a des gens qui travaillent, qui sont moins riches. Et finalement, les tensions qui apparaissent, plus des tensions d'ordre social. Et à titre d'exemple, hein, ce qui se dit dans les communes qui hébergent ces personnes-là, c'est qu'ils achètent de grosses voitures. Et ils se promènent en grosses cylindrées, pas forcément allemandes, mais c'est plutôt ce type de problème qui apparaît aujourd'hui, une stigmatisation vis-à-vis de ces populations, plutôt d'ordre économique et social. Donc au niveau de la société japonaise dans son ensemble, on a de la compassion. En revanche, quand on descend dans les strates et qu'on va dans les communes qui hébergent ces personnes-là, là les choses sont un peu plus compliquées.
J'ai envie de, si vous voulez bien, de poser à tous trois une question peut-être un peu général, un peu de méthode, hein. Je rappelle que cette émission s'inscrit dans la semaine que France Culture consacre au thème suivant, science et catastrophe, en écho, bien sûr, au 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, qui a eu donc lieu le 26 avril 1986. Vous êtes tous les trois géographes, vous travaillez tous les trois sur à la fois les territoires face aux risques, la manière dont les territoires se relèvent de risque après avoir été touché par une catastrophe. Comment est-ce que vous vous y prenez pour justement faire un bilan entre guillemets scientifique ou objectif? Là, vous nous avez raconté beaucoup de choses passionnantes, mais quand vous êtes dans votre laboratoire, dans votre bureau, sur votre terrain, quels sont vos indices, quels sont vos indicateurs, quelles sont vos méthodes, avec quels concepts éventuellement, et également quels sont les critères que vous inventez ou que vous déterminez pour essayer justement de circonvenir ce que c'est qu'un territoire touché par la catastrophe et comment il réagit par rapport à ça. Samuel Ruffat, pour commencer, si vous voulez bien.
Alors, pour travailler sur les territoires, vous savez que c'est pas forcément quelque chose qui se fait en laboratoire, hein. On va sur le terrain, on rencontre les gens, faire des entretiens. Essayer de comprendre la façon dont les différents acteurs, qu'il s'agisse des populations affectées, des populations pas affectées, comme il vient d'être rappelé, il peut y avoir des tensions, les gouvernements, etc., ont vécu les choses et comment ils les voient. Et sur les concepts, par rapport aux crises, il y a une grande difficulté. On va pouvoir essayer de faire des comparaisons entre différentes crises, mais chaque crise est unique, dans le sens où elle n'est pas produite par des événements extérieurs à la société, mais par un enchaînement d'événements, de désorganisation, de dysfonctionnement, le fait que les capacités de gestion sont dépassées, que la réponse opérationnelle qui est mise en place peut être de plus ou moins grande qualité, que l'une des choses auxquelles on s'intéresse, c'est au phénomène d'apprentissage et d'adaptation, donc comment est-ce qu'on essaye la fois d'après de ne pas refaire les mêmes erreurs que la fois précédente. En s'intéressant plus sur ces questions du temps long, essayer de s'interroger sur les retours d'expérience, les phénomènes d'apprentissage, d'adaptation. On a aussi beaucoup parlé de résilience et on aura sans doute l'occasion d'en reparler.
Mais qu'est-ce que c'est la résilience, justement ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup, notamment depuis la catastrophe de Fukushima, mais d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment les géographes, les environnementalistes ou les sciences humaines et sociales s'en sont emparés pour dire quoi en fait ? Pourquoi ce nouveau concept ?
Alors, c'est un peu plus ancien. On a beaucoup parlé de résilience après les attentats du 11 septembre 2001. On en a beaucoup reparlé après Katrina, et notamment l'été dernier, le président Barack
2005,
Obama...
2005, hein, le, Katrina.
Voilà.
2005.
2005, pardon, oui. Le président Barack Obama, l'été dernier, est allé faire un grand événement autour de la résilience, justement, à la Nouvelle-Orléans pour les 10 ans de la catastrophe. C'est l'idée de rebond. L'idée de la possibilité de rebondir sur l'événement, de se remettre d'un traumatisme, de se remettre d'une catastrophe, et qui a de très nombreuses composantes du côté du rétablissement, du côté de la reconstruction, du côté de l'adaptation, des expériences qui sont tirées d'un événement, etc. Mais le souci que nous avons, puisque vous nous parlez de critères, c'est que jusque-là, on utilisait plutôt le concept de vulnérabilité. C'est-à-dire certains tranches de la population, certains types d'infrastructures, certains types de bâtiments sont plus affectés que d'autres par certains aléas, par certaines crises, par certains événements, parce qu'ils résistent moins bien aux chocs, parce que ils sont plus facilement affectés. Et il était possible de valider ces critères. C'est-à-dire, après une catastrophe, on peut constater, effectivement, voilà, le poids de la catastrophe a pesé inégalement sur certains secteurs de la population. Certains bâtiments ont mieux résisté que d'autres. Certaines infrastructures ont mieux résisté que d'autres. Certains choix de gouvernement ont été plus adaptés que d'autres, etc. Il est possible de les valider. Le souci qu'on a avec la résilience, c'est que dans cette histoire du temps long et de cette multidimensionnalité, il est extrêmement difficile, voire absolument impossible, de valider ces critères de résilience. Et c'est la raison pour laquelle il faut l'utiliser avec, en tout cas nous scientifiques, que nous essayons d'utiliser avec beaucoup de précaution, parce que c'est avant tout un discours qui est mobilisé par différents acteurs pour vanter le rebond, la reconstruction, voire pour labelliser un certain nombre de produits, plutôt qu'un ensemble de critères qui pourraient être validés scientifiquement. Je pense par exemple à tous ces labels qui sont posés sur les bâtiments résilients ou la ville résiliente. C'est très bien, on peut vendre aux gens des bâtiments résilients, mais si ces bâtiments résilients ne les empêchent pas de se noyer à l'intérieur en cas d'inondation, par exemple, on leur a juste vendu un autre produit
Annabelle Moitié, sur ce point.
Absolument, moi je voulais rebondir sur la méthodologie des retours d'expérience. Je pense que c'est vraiment par cette méthode-là qu'on arrive à obtenir des informations, et si les catastrophes et les crises et les reconstructions, il en va de même, ne sont pas nécessairement comparables les unes avec les autres, elles le sont sur certains points très précis, pas dans leur globalité, mais sur certains points très précis. Et en termes de critères, on a dans les bilans pour analyser une catastrophe et la reconstruction, les bilans économiques, humains, des pertes directes et indirectes, qui vont nous permettre de caractériser cette catastrophe de plus ou moins intense, plus ou moins importante. Ensuite, les méthodes d'entretien et d'enquête en sciences humaines et sociales sont en effet très intéressantes par le biais des entretiens et des questionnaires qui nous permettent d'avoir à la fois des informations qualitatives et quantitatives et d'avoir un double traitement, à la fois donc un traitement quantitatif, comme je vous parlais tout à l'heure des reconversions, donc un taux de reconversion des populations par exemple, et on va aussi avoir des éléments qui vont rester qualitatifs et qui vont devoir être analysés en tant que tels. Donc on ne pourra pas nécessairement produire d'indicateurs reproductibles sur tous les territoires, sur toutes les catastrophes et sur toutes les reconstructions pour analyser des éléments tels que la qualité de vie par exemple, ou tels que d'autres éléments qui peuvent être à la fois très subjectifs et pour qui la qualité de vie de certains peut être différente, une bonne qualité de vie pour certains peut être différente d'une bonne qualité de vie pour d'autres. Je pense que c'est un des éléments aussi importants par rapport au terme de résilience, c'est qu'il s'agit là d'une bonne pratique, quelque chose qu'on présente en tout cas comme une bonne pratique. Il faut une injonction à la résilience et toutes les bonnes pratiques sont relatives, ça dépend qui les énonce, pour qui, dans quel pas de temps, sur quel territoire et dans quelles conditions. Ça, c'est un des points qui sont parfois complexes à appréhender, mais qui ne le sont que par un travail de terrain important et en s'impliquant réellement sur un territoire. Je rejoins tout à fait Samuel Ruffa sur la question de l'analyse des territoires qui ne se fait pas en laboratoire, mais qui se fait bien en s'imprégnant des problématiques et des jeux d'acteurs et des jeux de pouvoir et des tensions sur place.
Avant d'entendre votre réponse à cette même question, donc sur les méthodes, les indicateurs, les concepts et les critères avec lesquels vous travaillez, vous aussi Rémi Scocimaro, s'agissant de la compréhension des territoires de la catastrophe au Japon. Je voudrais, si vous le voulez bien, vous faire très brièvement entendre un témoignage, celui d'un habitant rescapé de la ville de Yamamoto et qui dit un peu, lui, sa vision toute personnelle de ce que vous avez appelé la résilience. C'était donc un an après la catastrophe de Fukushima, le 4 mars 2012, sur France Inter.
Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là, juste devant nous. On est, on a la mer qui est derrière un énorme monticule.
C'est une digue. Ce que vous voyez là, c'est une digue qui n'est pas définitive. C'est une digue avant qu'on construise les autres. Ça prendra 3 ou 4 ans. Mais cette digue, on va la faire en béton.
Et ce que vous voulez, c'est que ça soit bien plus haut encore.
C'est le début des travaux pour faire la digue. Ça va être fait en béton, parce que ici la mer a atteint 6 mètres. Ici, le tsunami a atteint 6 mètres.
Et si jamais le prochain est encore plus fort, encore plus puissant ?
Donc en effet, comme nous savons qu'il y aura un autre tsunami, même si le tsunami à venir est plus haut et dépasse cette digue-là, on va faire deux autres digues de 8 mètres après.
Il y a eu combien de victimes à Yamamoto ?
On ne sait pas les chiffres.
La
plupart des personnes âgées ne se sont pas sauvées, elles sont restées chez elles.
Alors Rémi Scocimaro, je vais peut-être faire un peu un raccourci, mais cet habitant qui témoigne un an après le tsunami qui a touché le nord-est de la principale île du Japon, lui, il parle digue, digue, digue. Qu'est-ce que le chercheur en pense ?
Alors, c'est intéressant, les digues, parce que même par rapport à la résilience, parce que moi, c'est, enfin, sur la méthodologie, hein, moi, je pense qu'il faut faire de la géographie, hein, surtout.
C'est-à-dire ?
La géographie classique et.
C'est quoi de la géographie alors ?
Donc essayer de sortir des discours technicistes en particulier, que ce soit sur les digues ou encore sur l'action de la radioactivité, parce qu'en fait on est un peu coincé entre ces éléments qui sont souvent des arguments d'autorité, hein, que ce soit la hauteur des digues, la résistance du béton ou encore les différents radionucléides.
Ce que vous appelez techniciste, en fait, c'est le discours de l'ingénieur, si je vous comprends bien.
Voilà, c'est ça, le discours des ingénieurs.
Il faut mettre à distance le discours de l'ingénieur.
Voilà, et essayer de se replacer dans une analyse de la relation entre des sociétés humaines et leur environnement. Sur Yamamoto, donc Yamamoto, c'est 698 morts, hein, aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien. Ce qui est intéressant à Yamamoto, c'est que derrière cette digue, on avait une école. On avait une école et que la digue a en effet explosé et que l'école qui était située à 50 mètres du rivage a été complètement dévastée. Et le problème des digues, est-ce qu'il y a un des enseignements, alors là aussi sur la méthodologie, un des enseignements de la catastrophe du 11 mars et du tsunami, c'est que les digues ne protègent pas le territoire. Et qu'elles ont toutes explosé, même les digues à 12 mètres qui étaient les plus hautes du Japon ont été submergées. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en effet on a des habitants qui réclament des digues à 14 mètres. 14 mètres va être le niveau commun pour l'ensemble de la côte du Tohoku. Et que derrière ces digues, on va certainement, alors c'est pas encore pour l'instant, c'est pas prévu, mais on va certainement avoir de nouveau des populations qui vont venir s'installer. Et donc on est en train finalement de recréer de la vulnérabilité. De la vulnérabilité dans des territoires alors qui, à mon avis, ne sont pas résilients et ont été les territoires détruits par le tsunami et qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à se remettre debout par rapport à des territoires adaptés, des communautés adaptées qui étaient les villages de pêcheurs. Et on a aujourd'hui tout tout le long de la côte, des villages de pêcheurs qui voient leurs activités redémarrer progressivement, qui étaient installés sur ces côtes depuis plusieurs centaines d'années. En revanche, les villes qui ont été construites par la digue, hein, il y a eu vraiment un urbanisme sous la digue qui a été promu dans les années 60, et ces digues, elles ne sont pas, alors on va dire qu'elles ne sont pas résilientes, ces villes, elles ne sont simplement pas adaptées hein, à leur environnement et à l'aléa de tsunami, sachant que les digues ne protègent pas du tsunami. Ce mot de résilience, il a explosé également au Japon, alors dans un premier temps après 2005 et puis après 2011. Et mon analyse, c'est que l'exemple japonais montre qu'on ne peut pas lutter hein, contre certains aléas naturels et que donc, finalement, les politiques publiques, aujourd'hui, ne doivent plus s'appuyer sur la gestion de la vulnérabilité, parce que celle-ci, elle est, de toute façon, elle existe dès lors qu'il y a des communautés humaines installées sur un territoire, mais qu'on va travailler plutôt sur la résilience et sur les populations, c'est-à-dire sur la façon dont on va, comme la catastrophe va arriver, comment est-ce qu'on va essayer de renforcer la capacité de ces populations à encaisser la catastrophe et éventuellement à rebondir après la catastrophe. Et c'est aussi pour ça que c'est devenu essentiellement aujourd'hui un discours, alors qu'on était auparavant, juste dans les années 2000, plutôt sur une résilience qui était une notion descriptive, qualificative hein, de société. Et on parlait souvent de la société japonaise comme étant une société résiliente.
Oui, on parlait même de culture du risque s'agissant de la société japonaise pour dire bah, voilà des gens qui, par tradition, histoire, se sont d'une certaine manière...
Et Ayamamoto, la digue qui est en construction, elle n'est pas en béton, hein, elle est en terre. Recouverte de béton, un peu plus solide que l'ancienne, mais pour des raisons de coût et de spécificité au département de Miyagi, les digues sont légèrement rehaussées, mais sans modification technique majeure, en fait.
Donc, si je comprends bien, tous les trois, vous êtes quand même assez critique avec ce discours de résilience, ce concept, enfin cette notion en tous les cas de résilience, mise en avant soit par les décideurs politiques, soit par les acteurs économiques. On peut dire ça, Samuel Ruffat?
Oui, il y a deux choses. D'abord, ce paradigme de l'ingénieur et de l'éradication de la catastrophe ou de l'élimination de l'aléa qui a traversé le XXe siècle, dont on a eu l'occasion de voir à maintes reprises que c'est une fiction. C'est-à-dire on fait des erreurs de calcul et on fait des aménagements qui trouvent leurs limites et il n'est pas possible de protéger tout le monde contre tout. D'un côté. De l'autre, il y a cette question, est-ce qu'on s'intéresse plutôt à la vulnérabilité ou plutôt à la résilience, qui est un problème qui est d'ordre scientifique, comme je vous ai indiqué, le souci qu'on a, c'est que sur la résilience, il est extrêmement difficile de réussir à valider des critères. Et donc, on va rester dans quelque chose qui est discursif, où chacun va pouvoir venir avec ses définitions, ses indicateurs, etc. Et d'autre part, un problème qui est politique. Dans l'idée de vulnérabilité, il y a l'idée qu'une partie de la population ne va pas s'en sortir toute seule et qu'elle a besoin d'aide. Dans l'idée de résilience, il y a l'idée que les personnes ne s'en sortent pas parce qu'elles ne rebondissent pas. Et donc on transfère un peu la responsabilité de la gestion de la catastrophe et de l'après-catastrophe du collectif, puisqu'ils ne vont pas s'en sortir, il faut les aider, vers l'individuel. C'est parce que ce sont des personnes qui ne le méritent pas qu'ils sont décédés. C'est parce que c'est des personnes qui ne font pas assez d'efforts, qui n'arrivent pas à s'en remettre, ou parce qu'ils refusent de s'adapter, que alors qu'ils étaient pêcheurs, ils n'acceptent pas d'aller travailler dans l'industrie, etc. Donc bien faire attention à ces deux choses différentes.
Donc ça veut dire qu'en termes de politique publique et en termes de choix collectifs, l'emploi de la notion de résilience, non pas par les scientifiques, mais par les acteurs politiques et économiques, n'est pas du tout neutre, en fait.
Absolument. On cherche à positiver les catastrophes et à mettre l'accent plus aussi sur quelque chose qui est un futur souhaitable que sur les erreurs et les lacunes et les apories qui ont fait que nos politiques nous ont menés à cette production de la vulnérabilité. C'est ce que je vous disais dans la recherche de responsabilité tout à l'heure. Et la vulnérabilité met l'accent sur ce qui n'a pas fonctionné dans les politiques de prévention, alors que dans les discours, hein, je parle bien au niveau des discours publics, alors que la résilience met l'accent sur ce qui peut fonctionner, sur ce futur qu'on peut désirer, qui peut être positif. Donc c'est vraiment un retournement et à la fois une éviction des problèmes qui est problématique en elle-même, puisqu'elle performe, de fait.
Et pour autant, on continue à construire des centrales nucléaires. Le gouvernement japonais, alors est-il soutenu ou non par la population, se demande à intervalles réguliers comment il va pouvoir relancer le parc électronucléaire. Et puis, dans un certain nombre de pays, en particulier de pays émergents ou en voie de développement, on continue à installer des usines, de l'industrie chimique en particulier, ou d'autres industries dangereuses, mais on l'a vu aussi en France avec l'explosion d'AZF qui était quasiment au cœur de Toulouse. Donc on peut avoir l'impression que c'est comme si on ne tirait pas des leçons des catastrophes avérées. Écoutons un instant un témoignage d'une habitante de Bhopal. Bhopal, on s'en rappelle ou on s'en rappelle pas, c'est cette très grande catastrophe dite industrielle du 2 décembre 1984. L'explosion donc survenue dans une usine de produits chimiques, notamment d'un produit l'isocyanate de méthyle utilisé pour la fabrication d'un insecticide. Et le 2 décembre 2009, Daniel Mermet, pour là-bas, si j'y suis, avait été prendre quelques témoignages.
Quand le gaz est sorti, mes yeux ont commencé à brûler et ça faisait mal. Et je pensais que c'était un feu, un incendie. Mes yeux brûlaient et ça suffoquait. J'avais du mal à respirer. Mm-hmm. Tout le monde était en train de tousser. Je n'arrivais pas à parler. Ce soir-là, on a commencé à courir dans tous les sens. Il y avait des gens qui tombaient dans des fossés, dans des petits canaux. Personne ne savait quoi faire. On voulait tout simplement quitter l'endroit. Alors le sentiment, c'était comme si on respirait des piments rouges. Quand on les frit dans l'huile, ça dégage des vapeurs qui font mal. On n'était pas du tout au courant et on ne savait pas. Tous les gens ont couru dans tous les sens. Moi-même, j'ai couru un peu, mais j'ai fini par revenir à la maison parce que je ne savais pas où aller.
Cette ville de Bhopal, 1,5 million d'habitants, donc c'est une grande métropole. On dit encore aujourd'hui que c'est le plus grave accident industriel du monde. Donc on fait toujours cette distinction, en tous les cas, nous, dans les journaux, dans les médias, entre catastrophe industrielle et catastrophe nucléaire. Il y aurait eu, d'après les chiffres que j'ai trouvés, 15 000 morts. Donc c'est beaucoup, peut-être c'est même plus que les morts directes indiquées par les rapports officiels s'agissant de la catastrophe de Tchernobyl. Et puis j'ai aussi trouvé l'information comme quoi il y aurait aujourd'hui 100 000 personnes qui seraient malades ou infirmes suite à cette catastrophe. J'ai trouvé ces informations dans le dictionnaire de l'Inde, l'excellent dictionnaire de l'Inde qui est paru aux éditions Armand Collin sous la direction, je crois, de Frédéric Landy, si je ne m'abuse. Samuel Ruffa, qu'est-ce que ça vous évoque, ce souvenir de la catastrophe de Bhopal?
Oui, alors, certaines estimations sont encore plus élevées. On parle de 25 000 morts et de 300 000 malades. Les nappes phréatiques ont été contaminées et elles sont encore toxiques. Certaines études estiment qu'il y a 30 décès par mois qui peuvent encore être attribués à la toxicité de ces nappes phréatiques. Ce qui permet de revenir sur cette histoire de la difficulté à sortir de la crise et du temps long, et qui montre qu'il n'y a pas de différence radicale entre la catastrophe nucléaire et les autres, parce que si on revient sur ce dont on a parlé, sur la difficulté à sortir de la crise, la difficulté à rechercher des responsabilités, sur le fait que cela continue à tuer, qu'il y a des zones d'exclusion ou que la catastrophe est invisible, ce sont des choses que l'on retrouve dans les autres catastrophes. On peut penser à AZF par exemple, dont le
procès 2001, c'est ça ?
2001. Le procès a été annulé par la Cour de cassation, il est reporté en janvier 2017, donc il va falloir attendre 16 ans après la catastrophe pour pouvoir essayer d'en tirer les responsabilités. Bhopal, donc, qui continue à tuer, 1984, c'était il y a plus de 30 ans. On peut penser à Xintia, où on a encore 200 réfugiés qui sont en attente de pouvoir être relogés, 700 expropriations ou destructions. Donc on a une zone d'exclusion, de fait, qui a été mise en place. Et on parlait de la difficulté sur les digues. Il y a de plus en plus de zones côtières dans lesquelles on parle de retrait des populations ou d'abandon de certaines parties des zones côtières du fait de la remontée des eaux. Et sur les questions d'invisibilité, il y a un certain nombre d'inondations par remontée de nappes phréatiques où l'eau n'est pas en surface, elle est dans le sous-sol, mais vous avez eu l'occasion d'en discuter pour Paris, où la catastrophe n'est pas visible et pourtant elle est bien là. Donc pas de différence forcément radicale entre une catastrophe nucléaire et une autre, peut-être des différences plus d'ordre de grandeur.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, et vous savez que bon, Planète Terre, émission de géographie, mais émission aussi et surtout des enjeux globaux. On essaye de se placer à l'échelle du globe, donc à l'échelle mondiale, et là, on a bien sûr, beaucoup évoqué certains cas particuliers, certaines catastrophes très très emblématiques et en même temps très très spécifiques, notamment celle de Tchernobyl et de Fukushima. Mais aux trois spécialistes que vous êtes, j'ai envie de vous demander comment vous voyez l'avenir de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez qu'on va finalement vers plus de catastrophes, en dépit de celles qui sont déjà arrivées et qui devraient faire en sorte qu'on en tire des leçons? Et puis, puisque vous en avez parlé, est-ce qu'on va vers finalement plus d'injustice face au risque et face à la catastrophe, ou au contraire, vers une plus grande égalisation des territoires et des sociétés face au risque et à la catastrophe? Annabelle Moiti.
Alors, je pense déjà dans un premier temps, d'un point de vue normatif, que les bonnes pratiques sont bonnes à un endroit précis et qu'il est très délicat de trouver de bonnes pratiques générales et qui soient applicables à la totalité du globe et à la totalité des situations. Ça, c'est un premier point qu'il faut bien avoir en tête. Sinon, on va tomber dans des grandes orientations générales du type de celles qui sont données par les Nations Unies, qui ne sont pas du tout inutiles, hein, mais avec lesquelles on ne peut que souscrire dans beaucoup de cas. Et un deuxième point sur ce que vous venez de demander, sur ce qu'on a appris des catastrophes. Alors, on apprend par le partage des expériences, on apprend par la réorganisation des acteurs. En période de reconstruction, les acteurs se réorganisent pour gérer. Et c'est des structures qui sont remises en place, adaptées en fonction des pays à différents endroits. Ensuite, la reproductibilité d'une même catastrophe sur un même territoire est questionnée par beaucoup de chercheurs aujourd'hui. Les peuplements évoluent, les territoires évoluent, les phénomènes naturels, technologiques, nucléaires peuvent être amenés à évoluer aussi. Donc il est aussi très complexe de transposer des pratiques d'un territoire à un autre. Je voudrais juste terminer sur une notion d'intelligence du bon sens des gestionnaires et de dignité des personnes, qui est quand même un élément fondamental du relèvement des populations en période de reconstruction.
Rémy Scocimaro, votre réponse sur l'avenir des territoires face à la catastrophe.
Alors, si on prend le Japon, de toute façon, on va avoir des catastrophes. Hein. Moi, j'attends le séisme de Tokyo. Il est toujours pas venu.
Big One.
Le Big One, il va certainement arriver. Donc, on est sur un territoire qui, de toute façon, va être secoué par ces catastrophes, qui est de toute façon régulièrement secoué par les typhons ou les glissements de terrain. Donc, on est sur quelque chose qui, de toute façon, le tsunami du 11 mars n'apporte pas de rupture. Et puis, d'autre part, tant que l'armature, la structure, les dispositifs en place qui ont conduit à la catastrophe, à faire un état de catastrophe, en particulier cette question des digues, hein, qui se voit assez bien avec la question des digues, parce qu'aujourd'hui on est en train de faire le mur du Pacifique sur ces côtes-là. Donc les choses n'ont pas tellement changé, et donc tant que cet aspect-là n'aura pas fondamentalement changé, on va retrouver certainement les mêmes problèmes. C'est pas 2 ou 3 mètres de digues de plus qui vont fondamentalement changer les choses. Et puis sur les inégalités sociales, on a des inégalités sociales de toute façon qui frappent qui est un marqueur social de cette catastrophe. Hein. Les quartiers qui ont été inondés de Sendai, hein, ce sont là où habitent les populations les moins aisées. Et ceux qui sont obligés de rester dans les refuges, aujourd'hui à Fukushima, eh bien, ce sont aussi les populations les plus faibles et les moins aisées.
Eh bien, Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. Annabelle Moiti, Samuel Ruffard, Rémy Scocimaro, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Je précise que les liens vers vos publications et vos sites web sont sur franceculture.fr à la page de Planète Terre. C'était donc Vivre après la catastrophe, une émission en écho au 30e anniversaire de Tchernobyl et au 5e anniversaire de Fukushima. Véronique Villard, Jean-Frédéric, Catherine Madur, France Bleu, Toulouse et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission. Émission que vous pouvez écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours et podcaster durant une année. Vous pouvez également la partager sur mes comptes Facebook et Twitter et je vous remercie à nouveau de votre attention et de votre fidélité. Demain jeudi, Science et Catastrophe suite, dès 6h du matin, dans Un autre jour est possible où Toufik Hakem évoquera Tchernobyl, puis à 16h dans La marche des sciences d'Aurélie Luneau, dont l'invité ethnologue vous emmènera à La Hague.